Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que tu as la sensation d'avoir atteint le succès?
Vraiment pas. Bah, en fait, c'est quoi ta métrique pour le succès, tu vois? Est-ce que la métrique, c'est le nombre d'abonnés? Est-ce que c'est ton bonheur au quotidien? Est-ce que c'est ton compte en banque? Est-ce que c'est... Donc, selon la métrique que tu prends, bah, tu vas dire que tu as du succès ou pas, tu vois?
C'est quoi ta métrique à toi?
Disons que si on devait mesurer le succès, je l'associerais au nombre d'abonnés.
Okay.
Et donc, dans cette métrique-là, je ne considère pas que j'ai du succès. J'aimerais bien arriver à 1 million d'abonnés, mais je sais ce qui va se passer si un jour j'y arrive. C'est que je veux dire, bah, c'est pas assez, c'est pas un succès, regarde tous les autres. Tu vois, quand tu te compares, tu te fais peur, quoi.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est avec Viviane, donc Skylabus.
Syllabus.
Putain, ça commence. Allez hop, on coupe. C'est tout pour ce podcast. Tu vas m'expliquer pourquoi Syllabus après, mais j'imagine.
Bien sûr.
Viviane, t'es... vulgarisatrice,
ouais.
C'est comme ça que tu te définis?
Ouais, c'est le terme que j'emploie. On peut donner plein de noms de métiers. Celui-là, c'est celui qui englobe le plus des activités que je fais, mettons.
Oui, parce que tu fais plein de choses. Tu as une chaîne YouTube, bien sûr. Mm-hmm. Mais donc, tu as plein de réseaux sociaux parce que ça...
Parce que ça va avec.
Tu déclines, ouais. Finalement. Mm-hmm. Mais tu es aussi conférencière et...
Ouais, plus formatrice que conférencière. Les conférences, j'en fais plus trop, ça fait longtemps que j'en ai pas donné, donc je m'attribuerai plus ce titre-là. Plus formatrice et enseignante, j'enseigne la vulgarisation aussi à l'université. Donc ça, c'est un petit peu mes trois casquettes principales, vraiment vulgarisatrice, formatrice et enseignante.
Et on va parler de tout ça, de comment t'en es venue à te lancer sur YouTube, comment t'en es venue à aussi, parce que ta chaîne, pour les gens qui connaissent pas, c'est de la vulgarisation scientifique.
Oui.
Et t'as fait partie, je crois, des rares premières femmes à sortir du bois en mode vulgarisatrice scientifique. Il y en avait.
Ouais, même au-delà de femmes, en fait.
Même
en francophonie, en tout cas.
Oui.
Aujourd'hui, figure-toi que le jour où on enregistre, ça fait 9 ans que j'ai ouvert ma chaîne. Aujourd'hui même.
Waouh.
Donc, c'est ça, on approche de la décennie. Il va falloir que je fasse quelque chose l'année prochaine, je sais pas quoi encore.
L'anniversaire des 10 ans.
Ça
ouais. Rigole pas. Et donc, ouais, à la base, avant de te lancer sur YouTube, tu t'es lancé, enfin, t'as aussi fait des études de scientifiques, en fait, qui t'ont amené.
C'est ça. Donc, je me suis lancée sur YouTube en même temps que je faisais mes études. Donc, j'ai lancé ma chaîne en 2013 et à ce moment-là, j'avais fini ma maîtrise recherche. Donc je suis française, mais je suis allée habiter au Québec en 2009. Et j'ai fait une maîtrise recherche. Et maîtrise recherche, il n'y a pas d'équivalent en France, mais c'est l'équivalent d'un mini-doctorat de 2 ans. Et donc, j'avais fait ça. Et puis après, j'étais allée travailler, puis revenue à l'université parce que j'aime mieux le milieu académique que le milieu privé, industriel, de l'industrie plutôt. Et donc, j'ai lancé ma chaîne juste avant de commencer mon doctorat. Donc, okay. J'ai quand même fait tout mon doctorat en même temps que ma chaîne.
Ta première vidéo, d'ailleurs, j'ai remonté ta première vidéo qui a pas de voix off.
Pas de son, il n'y a rien.
Voilà, mais c'était vraiment histoire de tester, mais on en reparlera parce que je trouve ça assez génial de se dire, ok, moi je balance ma première vidéo, et je trouve ça aussi très cool de l'avoir gardée en ligne, parce que je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui finissent par devenir célèbres, voilà, et qui décident de vraiment dégager leur première vidéo dont ils sont moins fiers par la suite, quoi. Donc, je trouvais ça assez chouette. Mais on va reparler de tout ça. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Viviane, quand tu avais 7-8 ans?
Alors, quand tu dis ressembler, c'est un terme physique ou
c'est toi qui décides de ce que tu veux répondre.
Alors quand j'avais 7 ans, je devais être au CP. Je pense que j'étais plutôt alors je m'en souviens pas, donc c'est au travers du prisme des yeux de mes parents finalement que je réponds. Mmh. Et donc j'étais je pense assez joyeuse et j'étais un garçon manqué surtout. J'aime pas beaucoup le terme, mais c'est le terme
c'est
consacré,
le terme. Oui.
On va dire. Mais je pense joyeuse. Très simple, je pense pas que j'étais compliquée comme enfant.
T'étais déjà curieuse, t'avais
absolument
déjà...
pas.
Ok.
Non, c'est un gros reproche de mes parents quand j'étais petite, c'est que je refusais d'apprendre, je n'étais curieuse de rien. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le présentent, et que paraît-il que je me bouchais les oreilles quand ils essayaient de m'apprendre quelque chose. Et donc c'est quelque chose qui est venu vraiment beaucoup plus tard de cette curiosité-là, mais c'est pas du tout, en tout cas enfant. Dans les yeux des adultes qui m'accompagnaient, je n'étais pas curieuse.
Et quand tu dis garçon manqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu jouais avec des mecs plutôt, c'est ça?
Non, il y avait tout qui allait avec. J'avais les cheveux courts, je m'habillais comme un garçon. Et paraît-il que je voulais me faire appeler comme un garçon aussi quand j'étais avant 7 ans. Je m'en souviens pas, pareil. Mais oui, ça, tout le. Disons qu'on m'appelait jeune homme, on m'appelait jeune homme jusqu'à mes, je sais pas, 16 ans quand j'en ai eu marre d'être mégenrée et que j'ai fait pousser les cheveux.
Ok. On t'appelait jeune homme.
On m'appelait jeune homme, ouais.
C'est classe, quoi. Ouais. Demoiseau, quoi.
Ouais, c'est ça.
tes parents faisaient quoi ou font quoi
Alors, quand je suis... jusqu'à mes 10 ans, mes parents étaient horticulteurs. Donc, ils faisaient pousser des fleurs. On avait un grand terrain, on avait 3 hectares avec des serres et puis plein de fleurs. Et donc, c'est ça qu'ils faisaient jusqu'à mes 10 ans. Après, mon père, qui vient de prendre sa retraite, est allé travailler en mairie. Donc là, son dernier poste, c'était directeur général des services. Donc ça veut dire qu'il est dans l'équipe administrative de la mairie, mais sans être dans la partie politique. Et ma mère s'est beaucoup occupée de nous. Et là, depuis quelques années, elle est adjointe administrative dans un lycée.
D'accord.
Voilà.
T'as grandi dans quelle région?
Dans le sud de la France.
On l'entend, l'accent.
Petit accent du sud.
C'est pas pour rire.
Je le force un petit peu, mais quand je le force, c'est pas vraiment le mien.
À quel moment, en fait, t'as décidé d'avoir... ou tu te souviens d'avoir eu vraiment un shift en te disant « Ok, en fait, les sciences, c'est cool. »
Je suis pas sûre d'avoir eu un shift. Okay. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours été intéressée par les sciences. C'était mes matières préférées. C'était pas celle où j'avais les meilleures notes, mais c'était ma matière préférée à l'école. Et puis, on avait un ami de mes parents qui était fasciné par l'astronomie et une personne extrêmement curieuse et puis et très bon conteur. Et il me racontait beaucoup d'histoires. Mes parents aussi étaient dans des associations, Cybelle, ça s'appelait, où ils faisaient des posters pour expliquer comment est-ce que les chouettes vivaient, faisaient leur nid, etc. Donc j'ai baigné dans un environnement où les gens étaient curieux. Je sais pas, ça s'est fait assez naturellement. Un milieu où les gens étaient curieux, mais personne n'était en sciences. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient plutôt formés en littéraire. Et dans mon entourage, j'ai très très peu de scientifiques. Et puis c'est ça, au final, c'est là que ça m'intéressait le plus. Alors ça s'est fait assez naturellement, je dirais.
Et en rapport avec la nature aussi, parce que tes parents étaient horticulteurs, j'imagine, donc ça devait jouer, non?
Et puis ma mère a eu un BTS de botanique aussi. Elle faisait des sorties où elle guidait les gens dans la clap, dans la nature, pour expliquer telle plante fonctionne comme ceci, comme cela, etc.
D'accord.
Donc oui, très, très nature dans ma famille.
Ok. Qu'est-ce qui fait que tu décides de t'orienter vers des études scientifiques?
Aucune idée.
Tu sais pas?
Non,
je sais
pas.
Plus?
Non.
T'étais grande quand même pourtant.
Ouais, mais si tu veux, j'ai pas eu l'impression de faire un choix, de me dire je vais choisir d'aller en sciences plutôt qu'en lettres. Pour moi, c'était ça qui m'intéressait, puis jamais j'ai songé à aller ailleurs en fait.
Ok.
Mais je pense que c'est dans les trucs où je sais que ça me fascinait, je sais que dans les films, il y avait des équations, tu sais, des fois ils montrent des équations et tout. Puis je trouvais que c'était un langage secret et j'avais trop envie de comprendre ce langage secret. Donc je sais que ça m'intéressait, les petites expériences ça m'intéressait, l'ami de mes parents qui parlait d'astronomie ça m'intéressait. Donc tout ça a fait que petit à petit je me suis plutôt dirigée vers les sciences.
D'accord.
Tout simplement.
Ouais. Ok. T'as fait quoi comme étude alors, post-bac ?
Alors, post-bac, j'ai fait une licence de physique fondamentale, mais j'ai fait que L1 et L2, parce qu'après, je suis partie en école d'ingénieur en génie mécanique à Belfort. Et à la fin de mon génie mécanique, je suis allée faire un stage de 6 mois au Québec, à Polytechnique Montréal, dans un laboratoire de nanorobotique. J'ai tellement aimé mon projet que je suis restée 2 ans de plus faire donc la fameuse maîtrise recherche dont je parlais tout à l'heure, qui est donc un mini doctorat de 2 ans. Après, je me suis dit qu'il fallait faire une expérience, une vraie expérience professionnelle. Donc, je suis allée travailler en antenne de satellite.
Non, mais tu vas trop vite là.
Je te dis tout.
En fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment t'en es venue à te mettre dans le génie mécanique, tu vois, alors que t'étais.
Ah, alors ça, pour le coup, il y a un déclic. Quand j'ai eu 19 ans, je me suis pété le genou en faisant du handball.
Ok.
Et il a fallu que je me fasse opérer. Et avant de me faire opérer, je voulais savoir ce qu'on allait me faire. Et je suis allée voir les vidéos des médecins, les vidéos de formation des médecins qui font ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun filtre là. Tu vois vraiment tout. Et j'ai trouvé ça génialissime.
Donc tu as regardé des vidéos d'opération ?
Ouais, j'ai regardé des vidéos d'opération. C'était trop bien. parce que je trouvais que le corps humain, ça pouvait se réparer comme une voiture qu'on amène au garage, quoi. Et ils avaient des perceuses comme nous, ils ont tout. C'est juste que tu as un tampon qui dit que ça marche pour l'humain, quoi. Et donc je trouvais ça génial. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, je veux concevoir des implants. C'est de la mécanique. Je veux concevoir des implants et c'est pour ça que je suis partie en génie mécanique après et que j'ai arrêté ma licence de physique.
Mais des implants de quoi alors ?
Orthopédique.
Ok.
Ouais.
D'accord.
Orthopédique. Et donc c'est pour ça que je suis allée en génie mécanique.
D'accord. Et là-bas, en fait, tu as fait un stage dans la nanorobotique, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, alors, donc, à la fin de l'école d'ingé, il y avait un stage de 6 mois. Et je cherchais un stage en recherche parce que j'avais déjà fait un stage en industrie que j'avais pas trop aimé. Et donc ce lab-là m'a ouvert les portes et j'y suis allée. Et alors ça s'appelle nanorobotique, mais ça a de nano que le nom parce que c'est pas du tout à l'échelle nanométrique, c'est plutôt à l'échelle millimétrique, voire microscopique, mais pas nanométrique. Et donc là, le projet que je faisais, que j'ai adoré, c'est les meilleures années de ma vie. Je développais, tu vois ce que c'est un cathéter, tu sais, c'est un long tube de plastique qu'on met dans les vaisseaux sanguins. Et je développais un embout qui se met au bout du cathéter, qui était magnétique, et qu'on pouvait diriger avec un IRM. Donc IRM, c'est les gros scanners d'hôpitaux qui sont en fait des gros aimants. Et nous, on venait modifier le code de l'IRM pour changer comment le magnétisme s'appliquait, pour être capable de tirer l'embout et de le guider en 3D comme une tête chercheuse, tu vois.
Ah yes.
Et donc comme
dans les vaisseaux sanguins.
Les vaisseaux sanguins. Et donc ça nous permettait de guider vraiment le cathéter exactement comme on voulait, parce que c'est pas quelque chose qui est facile de guider un cathéter. Tu sais, t'es à l'entrée, t'es à la porte du vaisseau sanguin, tu le pousses, t'es 15 cm plus loin, mais s'il y a une intersection, c'est super dur d'aller la prendre.
Tu sais pas où tu vas,
Et donc c'est ça qu'on a fait, puis c'était génialissime, mes 2 meilleures années de ma vie.
Et ça, si je me trompe pas, c'était au Québec.
C'était au Québec, ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qui t'incite à partir au Québec ?
C'est là que je trouve un stage.
Ah, c'est aussi simple que ça.
C'est aussi simple que ça.
D'accord.
Ouais, il y a pas de, j'ai pas choisi de quitter la France et j'ai pas choisi le Québec non plus. Trouver un stage, c'est suffisamment compliqué. Là, on prend ici, j'y vais.
Ah ouais.
C'est tout.
Et il n'y avait pas une volonté de te dire, bon, bah, c'est très bien, je vais aller découvrir une.
Ah, si, si, bah, c'est si tu veux,
ça va avec.
L'occasion fait le larron, quoi.
Ouais.
Mais c'était pas mon. J'étais contente de partir à l'étranger. C'était une volonté, quand même, de partir à l'étranger, mais le Québec, ou ça aurait été la Tunisie, ça aurait été très bien aussi, quoi.
D'accord, ok. Et depuis, t'as pas quitté, c'est-à-dire
et
que.
J'y suis toujours. Mais pour la même raison. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui me pousse en ce moment à revenir en France. Donc la seconde où il y aura quelque chose qui me poussera à changer de pays, ben je changerai.
Ok. Donc ça fait maintenant
13 ans.
13 ans, c'est ça,
ouais,
que t'es là-bas ?
Ouais.
Ok, ok.
Comment ça fait un bail ?
Et tu disais justement, parce qu'on s'est croisés au Festival Frames, que c'était une occasion pour toi de rencontrer tous les vulgarisateurs français. Tu disais que c'était un peu compliqué pour toi, parce que tu te sentais un peu à l'écart, entre guillemets. Comment tu vis justement le fait de faire des vidéos finalement pour... Alors, francophone, quoi qu'il arrive, mais aussi ton public, j'imagine qu'il est...
Il est en France, ouais.
Il est en France, tout en étant de l'autre côté de l'Atlantique.
Mais je ne sais pas comment ça se passe pour les gens qui sont ici, du coup. Donc, je ne sais pas où se situe la comparaison, mais c'est sûr que moi, je suis très isolée. Donc, maintenant que je ne suis plus en doctorat, puisque je l'ai fini, et que je suis juste toute seule chez moi, bah, je suis toute seule chez moi, quoi. Et puis même les gens avec qui je travaille sont en France ou en Espagne. Donc, je n'ai quasiment aucun contact humain pour la partie travail. Donc ça, c'est un peu lourd. Et puis surtout, j'ai personne avec qui confronter les idées. C'est-à-dire, ah, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la miniature, ce serait bien que je la change? J'ai personne avec qui confronter ça ou d'avoir quelqu'un qui a les mêmes problèmes que moi. Ben, c'est difficile, quoi. Donc, quand je viens au festival Frames, comme ça, et que je rencontre des collègues et des consoeurs, en quelque sorte, ben, ça permet de voir, ah bon, ben, le problème que j'ai, en fait, il est partagé par d'autres personnes. Et c'est très rassurant et très inspirant de voir que, en fait, je ne suis pas juste dans un silo, quoi. J'ai l'impression d'être un silo, mais en réalité, il y a tout un groupe, quoi.
J'avais l'impression qu'il y avait des groupes WhatsApp, tu vois, qu'il y avait des discussions de youtubeurs et surtout dans la commu de la vulgarisation, mais ça s'est un peu tombé à l'eau, c'est ça ?
Il y a eu au début, et puis moi, le groupe dans lequel j'étais a pas très bien fini, donc... donc voilà, donc j'en ai plus de groupe et donc je vais plus parler avec quelques individus par-ci par-là.
Quand tu dis que t'as pas très bien fini, c'est parce que
c'était avec Léo.
C'était avec Léo Grasset, ouais. qui s'est fait
qui a été accusé là, c'est ça, accusé de viol et d'agression sexuelle. Ça a été révélé dans Mediapart, mais nous on était au courant depuis un petit peu plus longtemps et donc voilà.
Ça s'est un peu dissous de ce fait-là.
Et puis ça faisait un petit moment qu'on voyait que c'était pas très sain comme groupe, donc tout le monde a commencé à partir du groupe. Mais moi, c'était ma seule attache avec les vulgarisateurs français, finalement.
Bah ouais, j'imagine.
Les vulgarisatrices. Donc en perdant ce groupe-là, bah, j'ai un peu perdu toutes les communications que j'avais avec mes collègues et consoeurs, quoi.
Et t'as pas une volonté, toi, aujourd'hui, de te dire, tiens, on pourrait recréer un groupe, parce que...
Si, mais tout le monde a créé son groupe, maintenant.
Ah oui. Donc t'es toute seule.
Donc je suis toute seule de l'autre côté, tu vois.
Ok. Et y a pas d'autres youtubeuses, youtubeurs...
Alors, y en a plein, scientifiques, mais en vulgarisation, sont... très peu.
Ouais.
Y a un youtubeur en histoire, Laurent Turcot, mais il est... Il est sur YouTube, hein, il n'y a pas de problème, mais il est aussi enseignant à l'université et il est très présent dans les médias traditionnels. Donc on n'a pas la même vie, on n'est pas dans la même problématique. Et puis il est en histoire aussi, donc c'est un petit peu différent.
Ouais, ok. Je te sens un peu... C'était cool pour toi d'être au Frame, justement.
Ah oui,
pour
vraiment,
pouvoir.
Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, ça, je crois que je spoil pas, mais tu es en train de lancer un podcast avec d'autres vulgarisateurs. C'est aussi une façon comme une autre de recréer du contact, c'est ça?
C'est la raison numéro un pour moi.
Ah ouais, ok.
Ouais. C'est-à-dire que j'en ai marre d'être toute seule et d'être toute seule avec mes pensées. Donc, le fait de faire ce podcast, ça me force et ça force les gens à ce qu'on se rencontre, en fait, et qu'on discute. Et puis, je sais que ce genre de discussion, ça intéresse aussi plusieurs personnes, donc autant les rendre publics. Puis moi, ça crée une occasion, quoi. C'est difficile d'aller voir quelqu'un et lui dire « Hey, on va boire un verre, on se connaît pas ». Tandis que si on dit « Hey, j'enregistre un podcast, veux-tu être mon invité ?» C'est plus facile d'arriver à ce genre de discussion après derrière.
Et tu veux dire que toi, dans ta position aujourd'hui, où tu as quasiment 500 000 abonnés sur ta chaîne, c'est encore compliqué pour toi d'aller voir un youtubeur en lui disant « Viens, on se connaît pas, mais viens, on va discuter. » C'est un truc que tu n'arriverais pas à faire.
Ben non.
Ok, ok.
Mais c'est parce que c'est des humains. Je fais pas ça avec des humains que je connais pas, donc je m'attends pas à le faire juste parce que j'ai 500 000 abonnés, tu vois.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc où... Bah, c'est un truc maintenant que tu fais depuis des années, donc tu vois, il y a aussi un truc, j'ai un peu l'impression, de, comme tu dis, de collègues ou de consoeurs... un peu inné, quoi. Tu vois, vous êtes sur la même plateforme, vous vivez à peu près les mêmes prises de tête, etc., quoi.
Je sais pas.
Ok.
Ouais. J'ose pas, en tout cas.
Okay. Mais c'est marrant que tu aies créé ce podcast pour te dire, bah, au moins ça me donne une occasion de le faire, quoi.
Ouais, bah, c'est ma raison personnelle. Après, il y a d'autres raisons. Je pense aussi que c'est intéressant. Ça va dans la suite de la philosophie de formation que j'essaie de donner, parce que j'ai une seconde chaîne qui s'appelle C+, où là, j'essaie plus vraiment sur l'aspect formation. Donc, il y a d'autres choses que simplement mon ego à moi et ma personne, quoi.
Oh, mais en plus, je le vois même pas comme un truc égotique, hein. Tu vois, c'était plutôt, je trouvais ça marrant d'avoir d'être obligé, tu vois, de s'inventer ce, mm-hmm. ce projet-là, même si c'est un projet cool et que tu finis par en faire un truc sympa, quoi. Mais revenons à quel moment tu décides. Donc, tu arrives en 2009 au Québec, tu fais ce stage. Assez rapidement, tu te dis, bah, en fait, moi, je vais rester là et je vais.
Non. Ça fait 13 ans que je dis dans 2 ans, je rentre en France. Non, j'ai jamais décidé de rester à ad vitam aeternam où que ce soit.
Ok.
Et donc, il se trouve que ça fait 13 ans que je suis là-bas, mais j'ai pas. Si quand on me dit donc tu vas rester là-bas toute la vie, ben, je sais pas, on verra.
Non, ce que je voulais plutôt dire, c'était plutôt qu'est-ce qui t'incite à rester là-bas à l'époque, après ton stage?
Alors, après mon stage, c'est parce que le projet, j'ai l'occasion de le continuer en maîtrise.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et que le projet est vraiment ultra trop cool et je ne veux surtout pas le lâcher. Donc okay. C'est ça qui m'incite à rester.
Ok, ok. Donc tu fais ça pendant...
2 ans de plus.
2 ans de plus.
Ouais.
Et à quel moment... Donc là, on doit être environ en 2011. À quel moment tu te dis, tiens, en fait, ça pourrait être sympa de créer une chaîne YouTube ou de me lancer dans de la vulgarisation?
Alors la vulgarisation, en fait, je l'ai commencé en 2010, mais sous la forme d'un blog. Donc ça faisait 6 mois que j'étais arrivée au Québec. Et donc j'ai fait 3 ans de blog et après j'ai fait du YouTube.
Souvenez-vous, les jeunes. Enfin, non, ils ne savent pas d'ailleurs, ils ne connaissent pas le...
Bah non,
ils connaissent pas les blogs. Donc plutôt à l'écrit alors.
Donc plutôt à l'écrit au départ, mais parce que la vidéo, ça n'existait pas vraiment en fait en 2010. Oui. Il n'y avait pas...
Enfin, il y avait des Dailymotion.
Ouais. Il y avait YouTube aussi, techniquement, mais ouais. Je sais pas s'il y avait grand-chose encore. Ou en tout cas, moi, je l'avais pas découvert en 2010. En 2013, j'y étais bien dedans. J'adorais Smarter Every Day. Donc moi, je baigne beaucoup plus dans le milieu anglophone sur YouTube que dans le milieu francophone, en tant qu'utilisatrice.
Et parce qu'il y a plus de choses aussi, j'imagine. Il y a une offre beaucoup plus grande.
Bah surtout en 2013, il y avait beaucoup plus de choses. Même aujourd'hui, hein, si tu regardes la vulgarisation scientifique, il y a quand même beaucoup plus de choses en anglophone qu'en francophone. Normal, il y a bien plus sûr. De monde, c'est assez logique. Donc moi, je baignais là-dedans. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que même moi, en tant qu'utilisatrice, ça m'intéressait plus de lire des blogs. Je regardais que des vidéos. Donc il y avait une petite incohérence. Pourquoi est-ce que j'ai écrit un blog si moi-même, j'irais pas le lire? Donc c'est pour ça que je suis passée à la vidéo.
Et donc, cette fameuse première vidéo, j'imagine que tu l'as insérée dans un...
Exact.
Tu l'as utilisée comme illustration, comme dans un post de blog.
C'est ça. Donc c'est ça, la première vidéo n'a pas de son. Puis elle est juste là pour illustrer quelque chose que j'ai écrit. Donc c'est vraiment la vidéo de transition avant que je passe au format vraiment vidéo, quoi.
Mais alors, qu'est-ce qui fait que tu te le dis quasiment du jour au lendemain, c'est ça de...
Non, pas du jour au lendemain. En fait, il y a eu un autre déclencheur qui est que j'ai fait ma thèse en 180 secondes, qui est un concours que les étudiants de recherche peuvent faire. Et moi, j'étais en maîtrise à cette époque-là. Et ma thèse, normalement, c'est pour les doctorats. Mais c'était la première année qu'ils faisaient ça. C'était la première édition francophone. Et ça existait qu'au Québec, c'était pas encore arrivé en France. Et donc, ils avaient ouvert aux maîtrises et aux doctorats parce que la maîtrise, il y a vraiment un aspect recherche au Québec. Et c'est pour ça que ça a disparu. Après, quand c'est arrivé en France, parce que les maîtrises, les masters français n'ont pas une partie de recherche aussi présente. Donc, ils ont été obligés de fermer uniquement en doctorat. Bref, c'est du détail. Le fait est que j'ai pu faire ce concours-là en tant que maîtrise, à la fin de ma maîtrise. Et j'ai adoré l'expérience, en fait, de pouvoir ajouter beaucoup plus de stimuli. C'est-à-dire de pouvoir ajouter l'intonation, de pouvoir ajouter les pauses, de pouvoir ajouter l'enthousiasme, qui est beaucoup plus facile à faire passer à l'oral qu'à l'écrit. Et donc ça a été aussi un second déclencheur. Et aussi, comme j'avais gagné le concours, ça venait avec un prix qui m'a permis d'acheter une caméra.
Ah yes.
Et donc c'est parce que j'ai gagné des concours de vulgarisation que je me suis monté un matériel, que j'ai pu acheter du matériel et que j'ai pu commencer les vidéos.
Et c'est un truc qui est venu pour toi assez intuitivement de commencer à parler face caméra, parce que tu parles face caméra quasiment...
Maintenant, tout le temps.
Oui.
Mais les premières vidéos, ça a pris peut-être 5-6 avant que je me mette face caméra.
T'es en voix off plutôt pour les premières?
J'étais en voix off. Et en fait, au bout de, c'est ça, des 5-6 vidéos, je me suis dit, ok, moi je regarde Minute Physics sur YouTube, qui est donc une petite animation en voix off, et je regarde Smarter Everyday, qui est en face cam. avec lequel des deux je connecte plus et lequel des deux je vais absolument cliquer sur la vidéo si elle arrive, c'est Smarter Every Day. Pourquoi ? Ben parce que j'ai créé une connexion, une relation humaine avec lui. Donc j'ai dit, ben, j'ai pas le droit de m'enlever cette connexion humaine-là, qui est ce que je recherche avec la vidéo, donc je vais passer en facecam.
Waouh ! Aussi simple que ça.
Ouais. Et puis c'est vraiment entre ces deux chaînes-là que je me suis dit laquelle des deux j'ai une connexion, quoi.
Ok. Donc, une démarche finalement très scientifique. Hein.
T'as pris
les deux.
Peut-être pas scientifique, mais analytique en tout cas.
Analytique, pardon. Ouais. Pardon, je vais faire en sorte d'être précis dans mes termes. Comment ça se passe tes premières vidéos ? Parce que j'imagine que c'est pas forcément un truc très simple à faire, quoi.
Ah non, c'est très compliqué.
Parler face caméra.
Ouais. D'ailleurs, dans mes premières vidéos, on voit que je suis un peu coincée, quoi. Et ça s'apprend, tout simplement. Donc je le fais, mais j'ai tellement pas de... Comme ça se passe bien, les retours, les commentaires et tout, j'ai pas tout ce truc qui est arrivé après, où la question de si on est une femme, c'est dur de se lancer. Moi, je suis pas sûre que ça m'ait traversé l'esprit, tu vois.
Okay.
Donc je me suis lancée, puis après je me suis rendu compte que c'était une question pour beaucoup de femmes. Et je suis pas sûre que moi ça l'ait été. Donc bah j'étais là face caméra, je faisais mon truc quoi, sans me poser trop de questions.
Waouh, est-ce que tu crois que c'est ton passé de garçon manqué qui t'a filé un coup de main pour ça ?
Très probablement.
Ouais.
Très probablement parce que et puis aussi que je suis pas très féminine dans les vidéos, je suis très neutre. Donc forcément, j'en ai pas des commentaires qui viennent chercher, qui accusent ma féminité, on va dire. Donc c'est facile d'évoluer quand on n'a pas les inconvénients associés à son genre quoi.
Et tu n'avais pas eu de soucis de ce genre dans ton parcours scientifique
jamais.
Jusque-là ?
Non.
Ok.
En tout cas, rien que je puisse isoler, quoi.
Oui. Ok. Tain, c'est intéressant parce que c'était avant MeToo, c'était...
Ouais, c'était avant tout ça.
Mais tu n'as jamais eu de soucis ?
Ça m'est arrivé deux fois d'avoir à un moment donné un chirurgien qui ne m'écoutait pas, qui devait faire la manip et il ne voulait pas faire la manip. Puis son assistante m'a dit « t'es une femme, impose-toi plus ». Voilà.
Okay.
C'est tout. Je me suis plus imposée, puis il est allé faire la manip. Et puis une autre fois, pour une vidéo, j'étais avec un ami et on allait voir un chercheur et on lui présentait des résultats. On lui disait « ces résultats sont incohérents, est-ce qu'il y a une explication scientifique ?» Parce que nous, on ne la trouve pas. Et puis là, il m'a challengé, c'est-à-dire qu'il est venu me poser des questions genre « c'est quoi une intégrale ?» qui est le truc de base.
Oui,
là, quand tu es en doctorat en génie mécanique là, et qu'on te demande « c'est quoi une intégrale ?», c'est une insulte.
C'est quoi 2 plus 2 quoi ? C'est comme
ouais,
si tu demandais ça.
Et j'ai dit « c'est l'air sous la courbe, pourquoi est-ce que tu... » J'étais là, je ne comprenais pas, donc il me testait. Et quand je posais des questions, il répondait à mon ami.
Ouais.
Et je suis ressortie de cet entretien avec un feeling bizarre, j'ai dit « je sais pas pourquoi, je suis pas bien de cette entrevue. » Puis c'est mon ami qui m'a dit, t'as pas compris ? Je dis non, qu'est-ce qu'il y a ? Puis c'est lui qui m'a expliqué ce qui venait de se passer, puis je l'avais pas compris. Donc peut-être que j'ai eu des trucs sexistes et je m'en suis jamais rendu compte, je sais pas. Mais j'ai deux expériences.
Ah ouais ?
C'est tout.
Mais toi, de ton côté, 2013, tu te lances comme ça et en fait, tu te dis, ok, c'est un vrai truc que je voudrais faire.
Non.
Non, pas du tout.
Non, c'est pour le plaisir. Je fais ça, c'est mon passe-temps. J'ai du plaisir à partager ces choses-là. Et à aucun moment, j'imagine que ça deviendra mon métier. À aucun moment. Je fais vraiment ça pour le fun.
C'est venu petit à petit ?
Ouais, c'est venu petit à petit parce que, surtout en 2013, il n'y avait pas de modèle économique. Donc, je ne voyais pas du tout comment est-ce que ça pouvait être. Comment est-ce que ça pouvait devenir mon métier un jour. Donc oui, c'est venu petit à petit. J'ai ouvert ma page Tipeee, je ne sais plus en quelle année, mais il n'y a quand même pas si longtemps que ça par rapport au fait que ça fait 9 ans que je fais des vidéos. Et puis après, à la fin de mon doc, j'ai dit « Ok, j'essaye pendant un an de voir si je suis capable d'en vivre. » Et puis ça a marché, donc c'est pour ça que je suis toujours là.
Tu t'es vraiment dit « Ok, je... » Comment dire ? C'était vraiment un objectif. Tu t'es dit « Je vais tester pendant un an. »
Ouais.
Mais ça faisait déjà combien de temps que tu faisais ?
Ça faisait 6 ans.
Mais t'avais déjà eu des résultats ?
Oui, j'avais déjà eu des résultats, mais j'étais pas... je sais pas combien d'abonnés j'étais, je me souviens plus, mais j'étais pas... En tout cas, c'est pas évident de penser que tu vas être capable d'en vivre, forcément.
Parce que t'en vivais pas du tout ?
Ah bah non.
Ou t'avais jamais tenté ? Enfin, t'avais jamais eu d'OP ?
J'avais eu une OP, peut-être, tu vois.
Okay.
C'est tout.
Mais t'étais jamais allé chercher ce genre d'OP ?
Non, j'avais jamais essayé. Puis okay. j'ai jamais eu à aller chercher, encore... Ce qui est, je touche du bois, tant mieux. On vient me chercher plus que je ne vais chercher. Mais c'était quand même un pari. Puis si tu veux, quand tu vois tous les gens qui sortent du doctorat, puis tu vois combien ils sont payés, et puis tu te dis, ah ouais, non, c'est-à-dire que moi, là, si j'extrapole, ça va être une vie un petit peu avec juste du beurre dans les pattes, quoi.
Ouais.
Ça va être compliqué.
Par exemple, au Québec, c'est payé combien quand tu sors du doctorat ?
Alors, ça dépend où est-ce que tu travailles. Ouais. Si tu travailles en recherche, si tu travailles en industrie, sortie d'école, je pense que tu es à 80 000 $ par année.
Ok.
À peu près, ça dépend beaucoup des milieux, etc. Je dirais, ouais, 80 000, puis au bout de quelques années, tu dois taper le 6 chiffres.
Ça,
c'est brut.
Ça fait combien, 80 000 $
en euros ? Je sais pas, parce que nous, on est payé en euros.
Ouais.
Donc, 5 000, ça va faire 70 000 euros.
Ok.
Donc, 80 000, ça doit faire 60 000, okay. 55 000, quelque chose comme ça.
Et tu me disais que tu avais tenté un truc dans le privé, c'est ça ?
Ouais, mais ça, c'était entre ma maîtrise et mon doctorat.
Ok.
Je suis allée travailler dans une antenne de satellite. Mmh. Et j'ai pas vraiment aimé. Donc, je suis partie au bout de 6 mois.
Qu'est-ce qui t'a pas plu ?
Alors, beaucoup de choses. La première chose, c'est que il fallait pointer.
Ouais.
Moi, ça me rend folle de pointer. Je ne comprends pas ce concept-là. Bah, si je le comprends, je le rationalise, mais ça me rend folle. L'autre chose, c'est que...
Tu veux dire, c'est d'avoir des horaires fixes ?
Non,
ça...
c'est que je me sens policée. Je me sens... Okay. Et puis surtout, dès que je sais que je pointe et que j'ai un horaire, si jamais je vais aux toilettes, je me dis « Ah, mais là, j'ai été plus longue pour aller aux toilettes. Ou, ah, mais là, j'ai discuté avec mon collègue. Ah, mais là, donc je ne suis pas efficace.
Ah,
et
oui, okay.
je suis en train de coûter de l'argent à la compagnie. Enfin, » En tout cas, ça rend quelque chose... Ça me met pas dans une bonne ambiance, quoi. J'aime vraiment pas ça.
Il y a pas beaucoup de salariés, tu sais, qui ont ce rapport-là à leur temps de travail, hein, tu sais, dans le privé.
Il paraît.
Grand bien t'en fasse, ouais. Mais c'est.
En tout cas, moi, je me sentais pas bien de pointer. Et l'autre chose, c'est que je sortais de 2 ans de recherche où j'avais été maître de mon projet. C'est-à-dire que c'était moi la boss. C'est moi qui prenais les décisions. On découvrait, tu vois, on faisait avancer la science. Quand on a commencé le projet, je dis on parce qu'on était quand même plusieurs sur le projet. Quand j'ai commencé le projet, on savait pas où est-ce qu'on allait aller. On savait pas si ça allait marcher. Donc tu t'avances dans l'inconnu et cette avancée dans l'inconnu est trop fun. J'adore cette avancée dans l'inconnu. Et tu découvres des choses et t'apportes quelque chose au monde. T'arrives en antenne de satellite, c'est un monde extrêmement conservateur. Où rien ne doit changer, ou alors très lentement. Et surtout, comme tu n'as pas d'expérience, ben évidemment, on ne te donne pas des responsabilités, ce qui est normal. Mais du coup, on me disait, fais ceci, fais cela, sans me donner de contexte. Et puis, on arrivait en fin d'après-midi, on me disait, finalement, fais ceci. Mais est-ce que c'est parce que j'ai mal fait ou parce que les specs ont changé ? Ben, je ne le sais pas, et je ne le saurai jamais. Et moi, ça me rendait folle d'être une exécutante qui n'avait pas de cerveau. Et voilà, j'ai pas tenu très longtemps.
Ouais, et en plus on te donne, j'imagine, un tout petit bout du truc sur un projet énorme sans t'expliquer ce sur quoi.
Ouais, c'est ça. Puis j'étais à un moment donné, j'étais en recherche et développement dans cette boîte-là. Alors j'étais la seule en recherche et développement. Puis on m'avait donné le mandat de designer de nouveaux supports de guide d'onde, qui est donc un truc qu'on a sur des antennes de satellites. Et la première ligne dans le cahier des charges, c'était « faudrait que ce soit pareil ». Officieusement, évidemment, ça c'est,
wow.
Il
n'y
a pas écrit ça, vraiment. « Faudrait que ce soit pareil ». Donc un projet où on te demande d'être créatif sans lettres, alors là, ça... Non.
C'est pas possible. Non, mais c'est surtout vu d'où tu viens. Et... Alors, déjà, ta personnalité plus l'expérience que tu avais eue de.
Oui, exactement.
Ok, en fait, c'est possible d'avoir cette liberté-là, j'imagine.
Mm-hmm, tout à fait.
Et puis d'être le boss dans ton projet, quoi.
Ouais.
Ce qui finalement est ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire que tu as continué à garder ce leadership et ce côté indépendante dans ton travail, quoi.
Ouais, je pense que je l'ai de façon assez naturelle. De toute façon, quand j'étais en école d'ingénieur, je prenais jamais la tête des projets d'école qu'on avait, parce que je savais que ça venait naturellement et que j'allais rien apprendre. En tout cas, à l'échelle de... T'apprends des choses quand t'as des employés, évidemment, mais à l'échelle d'un groupe d'école, j'avais rien à apprendre. Donc j'essayais d'aller toujours dans le technique, parce que c'est là que j'avais des choses à apprendre. Oui, je sais que je l'ai naturellement depuis toujours, quoi.
Mais alors, comment ça se passe ? Donc, quand tu sors de ton doctorat, qu'est-ce que tu vas faire après ?
YouTube.
YouTube ?
Ouais.
Un an où tu te dis,
je vais tester,
je vois ce que ça donne.
Ouais, exact. Okay.
Comment ça se passe, en fait ? Parce que là, ça fait 6 ans que tu es en train de faire ce métier.
Ouais.
Et c'est la première fois que tu te dis, OK, donc maintenant, l'objectif, c'est de gagner de l'argent avec ce socle que tu as créé, en fait, où tu as déjà une audience, etc.
Tout à fait.
Mais j'imagine que c'est quand même un gros shift de façon de voir les choses, parce que d'un coup d'un seul, il faut que tu as gagné de l'argent. Comment tu t'organises ?
Mais je sais pas trop, parce que encore une fois, ça a pas été violent comme changement. Donc j'ai soutenu ma thèse le 1er avril, c'est très drôle que ce soit le 1er avril, 2019. Et en fait, moi, j'avais fini ma thèse, en tout cas dans ma tête, le 30 août 2018. C'est juste qu'après, ça s'éternise, blablabla.
Ouais.
Mais moi, ça faisait des mois, en fait, que je préparais cette transition-là et que je savais que j'allais changer. Donc, ça s'est fait tout en douceur. C'est juste qu'il y a eu plus de vidéos à partir de ce moment-là. Mais c'est pas mal la seule chose qui a changé.
Okay.
Parce que finalement, je sais plus que... Ah si, je sais comment je gagnais ma vie. À cette époque-là, parce que ça a évolué aussi, je faisais juste 1000 choses. C'est-à-dire que j'ai pas essayé de gagner ma vie avec juste des vidéos, mais en allant chercher de l'enseignement, des formations, des... qu'est-ce que je faisais d'autre ? Je faisais d'autres choses. J'avais fait un petit camembert avec toutes les sources de revenus, puis il y en avait 15. Donc, je multipliais un petit peu les paniers, quoi, pour ouais. arriver à en vivre. Et puis, au fur et à mesure du temps, aujourd'hui, bah, il y a quasiment plus que trois pôles qui sont donc les vidéos, la formation et l'enseignement. Avec ouais. l'enseignement, c'est minuscule, hein, comme pôle.
Alors, quand tu dis la formation, c'est en entreprise, c'est ça ?
Peu d'entreprises me contactent, c'est plutôt des centres de recherche qui okay. me contactent pour faire des formations auprès de leurs chercheurs.
Qu'est-ce que tu vas faire alors spécifiquement comme formation ?
Vulgarisation.
Vulgarisation.
Donc, soit vulgarisation en vidéo. C'est beaucoup demandé la vulgarisation en vidéo. Et parce que souvent, les chercheurs, ils ont eu un petit truc de formation avant en vulgarisation. Et donc, ils savent, puis là, ça ne s'entend pas, mais je rajoute des guillemets. Ils savent faire la vulgarisation. Donc, ils veulent maintenant la spécialisation vidéo. Mais ils n'ont pas compris qu'en fait, ils ne savent pas faire la vulgarisation. Et c'est d'abord la vulgarisation qu'il faut faire avant de s'intéresser à la vidéo.
Parce que à quoi ça leur sert, par exemple ? Ça leur sert à pouvoir décrypter, pouvoir rendre au monde de façon plus simple, c'est ça le résultat de leurs travaux ?
Alors, la vulgarisation, oui, ça leur sert à ça. Ça leur sert à faire connaître leurs travaux, ça leur sert aussi à communiquer dans les congrès, ça leur sert à répondre aux médias, parce qu'il y a des profs qui sont sollicités. Donc, ça leur sert vraiment dans leur vie quotidienne. Et de plus en plus, je ne sais pas comment c'est en France, mais en tout cas, c'est le cas au Québec, de plus en plus dans les dossiers pour avancer en tant que prof, tu dois prouver que tu amènes quelque chose au public. Et donc, la vulgarisation, ça devient un des moyens de le faire. Donc, il y a ça. Puis la spécialisation vidéo, je pense que ça vient plus des universités qui disent « Eh, ce serait bien qu'il y ait une petite vidéo qui illustre ce que vous êtes en train de faire quand vous avez un article important qui sort. » Il y a des chercheurs aussi qui sont absolument convaincus du besoin de vulgariser et qui veulent le faire simplement parce qu'ils ont la fibre, quoi, tout simplement.
Un peu comme toi.
Un peu comme moi.
Finalement.
Ouais.
Donc ça, c'est une grosse, enfin c'est une partie de tes revenus.
Ouais.
Et donc tu disais avant que tu faisais des conférences aussi, mais j'imagine que ça s'est peut-être un peu calmé avec le Covid. Et...
Ouais, c'est pas trop le Covid. C'est aussi moi qui commence à me désintéresser, mais c'est que les conférences en général, c'est des conférences sur des sujets scientifiques. Et je commence à avoir fait le tour des sujets scientifiques que je maîtrise suffisamment pour faire des conférences. Donc j'en ai deux, qui est celui de ma maîtrise et celui de mon doc. Celui de mon doc, ça ne m'intéresse pas trop d'en parler, donc c'est celui de ma maîtrise. Et sorti de ça, des conférences d'une heure, disons, je ne peux pas attendre. Il faudrait faut que j'en crée. Quoi.
Oui, il faudrait que tu en crées d'autres.
Faudrait que j'en crée d'autres et puis je ne prends pas le temps de faire ça.
Ok.
Tout simplement.
Et sur YouTube, donc, forcément, aujourd'hui, c'est ta revenu, c'est ta source de revenus principaux. Quand tu dis que tu t'es lancé, ça veut dire que tu t'es dit « Ok, maintenant, je vais mettre en place une vidéo par semaine », enfin de rentrer vraiment dans un rythme de production.
Ouais. Donc j'ai augmenté le rythme, je l'ai doublé, je suis passée à deux vidéos par mois. Et puis j'ai jamais pu l'augmenter depuis. Je suis toujours à deux vidéos par mois, puis avec des fois des fails où j'arrive pas.
Ouais.
Mais ouais, deux vidéos par mois.
Et alors t'explores toutes sortes de sujets.
Ouais.
Que tu vas chercher à chaque fois à amener avec un angle scientifique.
Ouais, c'est ça.
Comment tu pitcherais ta chaîne à quelqu'un qui ne te connaîtrait pas ?
Ouais, j'ai beaucoup de mal.
C'est vrai.
Ouais, j'ai beaucoup de difficultés. Je dis souvent en fait, ce que je dis, je ne l'aime pas. Donc, c'est ça qui est problématique.
Ah ouais.
Mais je dis que je parle de science. Puis, je n'aime pas dire ça parce que souvent, ça rebute. C'est-à-dire que la personne qui n'a pas aimé les sciences à l'école va dire « Ah, c'est pas pour moi ». Alors que c'est accessible, tu vois, tout à fait, et que je fais tout justement pour que ça le soit. Je choisis mes angles exprès pour que même les gens qui n'ont pas fait de sciences puissent être intéressés. Donc malheureusement, je dis toujours que je fais de la science, parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots, et que je m'intéresse à des sujets du quotidien. des sujets un petit peu loufoques. Et puis là, en général, le mieux, c'est de donner des exemples.
Ah oui, c'est ça. C'est que, par exemple, ta vidéo la plus vue,
ouais,
c'est pourquoi le squat asiatique, entre guillemets, qui est aussi appelé le squat profond,
ouais,
est-il si difficile à faire, où tu passes 20 minutes à expliquer pourquoi.
Exact.
Alors là, pour le coup, tu reviens à tes joies passées de génie mécanique, mm-hmm, sur comment le corps marche, etc., etc.
Tout à fait. Et cette vidéo-là, on m'en parle encore aujourd'hui. Je reçois encore des mails aujourd'hui qui me parlent de cette vidéo. Encore à Frames, il y a quelqu'un qui m'a dit, justement, qui m'a parlé de cette vidéo. Puis tout le monde autour s'est mis à se faire le squat. Tu vois, dans la rue, j'étais debout, puis t'avais genre 10 personnes devant moi qui essayaient de faire le squat. Cette vidéo-là, elle est incroyable ce qu'elle a généré, c'est vraiment drôle.
Bah, je t'avoue que moi aussi, j'ai essayé de faire le squat, c'est impossible.
Alors, t'y arrives? Non.
Ben non. Moi, je bloque au niveau des chevilles, quoi.
Bah, pareil.
Pareil que toi.
Ouais, c'est ça.
Pourtant, j'ai les chevilles hyper souples, mais.
Ah.
C'est pas les chevilles, c'est les.
Les tendons d'Achille.
Les tendons d'Achille, ouais. C'est très compliqué à faire. Mm-hmm. Mais t'as d'autres vidéos où tu parles des tournevis. Enfin, t'as,
ouais,
et puis tu t'as lancé. T'as aussi fait pas mal de featuring avec des.
Pas tant.
Ah ouais.
Ouais. Non, j'en ai fait vraiment pas beaucoup pour le coup.
Ok. Ah,
parce que je suis loin.
Ah oui.
Donc j'ai une vidéo avec Manon Bril. J'ai une vidéo avec Léo Grasset. J'ai une vidéo avec Laurent Turcot.
J'en ai vu une avec Nota Bene aussi.
Une avec Nota Bene, ouais. Ouais. C'était plus un caméo avec oui. Nota Bene. Donc c'est pour ça que où est-ce qu'est le featuring, où est-ce qu'est le... c'est ça qui est difficile à faire à chaque fois, à définir. Mais pas tant que ça. Ben, en tout cas, sur combien, 170 vidéos, il y en a peut-être moins de 10, quoi,
ouais,
qui ont des featuring.
Et c'est... Il y a un truc en toi qui te... Justement, tu vois, tu disais tout à l'heure... tant que j'ai pas trouvé de raison de rentrer à Paris, il y a pas un truc en toi qui te dit non mais en fait moi j'ai besoin d'être là pour être un peu dans ce game-là.
Faut que ce soit plus fort que ça quand même.
Ah, ok.
Ouais. Parce que là c'est, si tu veux, c'est un petit peu superficiel comme
c'est
raison.
C'est professionnel
mais déjà je suis pas seule aussi, donc il faut qu'il y ait...
Oui, t'es mariée.
Oui, c'est ça. Donc il faut qu'on soit deux à avoir une raison de revenir ici. Mais si tu veux, c'est professionnel, mais c'est semi-professionnel. C'est-à-dire que c'est la partie analytique de mon cerveau qui en a besoin. C'est pas mon quotidien pour travailler.
Ouais.
Tu vois, je peux travailler très bien sans être à Paris, j'en ai pas besoin. Et puis surtout, si je rentre en France, j'irai pas à Paris. Donc, donc j'aurai quand même... Tous les youtubeurs qui sont pas à Paris, je pense qu'ils ont aussi ce sentiment d'isolement. Parce que tout le monde en parle, du sentiment d'isolement. Donc je suis pas sûre qu'en rentrant en France, je le résolve complètement.
Mmh. Et tu crois pas qu'il y a aussi un truc de... T'as jamais eu de tentation, pardon, d'aller rencontrer d'autres youtubeurs au Québec pour, je sais pas, créer un endroit ensemble?
J'en connais pas.
C'est vrai?
Ouais. J'en connais pas. C'est terrible.
Il y en a pourtant, non?
Oui, il y en a. En gaming, en lifestyle, en divertissement. Mais en vulgarisation, non. Et...
Il y a pas de youtubeurs?
Eh ben, s'il y en a, je les connais pas, hein.
Ok.
Donc, non, il y a juste personne, quoi.
Putain, j'imaginais pas, tu vois. Pour moi, dans ma tête, c'était forcément, il y a forcément des youtubeurs vulgarisateurs.
Ben, s'il y en a, ça se peut qu'ils le fassent en anglais. Parce que tout le monde est bilingue au Québec.
Oui.
Et s'ils le font en anglais, ben, je sais pas qu'ils sont au Québec. Et puis, il y a le potentiel de collaboration qui s'écroule parce qu'il y a la barrière de la langue, évidemment, puisque moi, je fais mon contenu en français. Et si, par exemple, il y a Acapella Science, qui est une grosse chaîne, ben, j'ai découvert qu'il habitait à 5 minutes de chez moi, mais il fait tout en anglais. Je ne pouvais pas deviner.
Mais vous pourriez peut-être bosser ensemble. Enfin, pas bosser ensemble, mais en tout cas...
Je pense qu'il ne travaille plus dans ce... En tout cas, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis le temps. Mais peut-être, mais je ne suis pas connectée au réseau, quoi. Je n'ai pas le réseau.
Okay.
Et je ne sais pas comment on rentre dans ce réseau que je n'ai encore jamais vu, quoi.
Waouh, wow. Ouais, j'imagine à quel point ça doit être...
Et au début, YouTube venait de temps en temps à Montréal, et puis donc, il y avait ces réunions de YouTubeurs où ils les ramenaient. Puis ça, je trouvais personne qui était un petit peu dans ma niche. Et puis, il n'y avait que des personnes. Je disais, ah, toi, tu fais quoi tout. Puis les personnes me répondaient, ah, ben moi, dans le fond, c'est juste ma personnalité sur YouTube. J'ai dit, ok, ben, et toi, tu fais quoi? Ben moi, je fais de la science. Donc, il n'y a pas de... Je ne trouvais pas de passerelle,
oui,
quoi.
Oui, il n'y a pas de point commun.
Ouais.
À part YouTube.
À part YouTube.
Ok. T'as des projets à venir?
1000.
Explique-moi.
Donc le projet de podcast, ouais, dont on a parlé. Je voudrais aussi lancer une vraie formation en ligne de vulgarisation scientifique parce que je la donne de façon en bouche à oreille, en fait, pour l'instant. Je fais quand même une ou deux formations par mois, mais c'est que du bouche à oreille. Donc là, j'aimerais bien l'étendre un petit peu plus. Donc j'aimerais sortir ça cet automne. Et puis, je suis en réflexion pour un autre énorme projet que je voudrais lancer, mais pas faire. Donc on verra. J'en dis pas plus.
Que tu voudrais lancer, mais pas... Mais pas produire toi-même, tu veux dire ?
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je trouve que ça manque. Et il n'y a personne qui le fait. Puis ça m'agace. Et moi, clairement, j'ai les moyens de le faire juste avec, basé sur ma notoriété. Et donc, j'ai le moyen de le lancer, mais je n'ai pas envie d'être celle qui va le faire vivre.
Le gérer au quotidien ?
Le gérer au quotidien, ouais.
Donc, ça voudrait dire quoi ? Que tu vas créer une boîte, aller chercher des associés ?
Non, c'est plus... donc, ce serait vraiment une chaîne YouTube.
Ok.
Oh putain, dans le fond, j'ai qu'à le dire. Comme ça, si quelqu'un veut le lancer, qu'il le lance. Comme ça, ce ne sera pas moi qui le ferai. C'est de faire une chaîne d'actualité scientifique. Un peu du Hugo décrypte, mais de science, okay. Tu vois. Sauf que ce que je n'aime pas dans l'actu scientifique actuellement, comment c'est traité, c'est que la nuance est tout le temps oubliée. On vient chercher le sensationnalisme. On ne remet pas les choses dans leur contexte. Ça m'énerve beaucoup. Et donc, j'aimerais pouvoir le créer juste pour mettre les bases éditoriales de la chose. Et puis après, laisser gérer les journalistes, les vulgarisateurs et vulgarisatrices qui seraient là, quoi.
Ah, d'accord. Donc, tu monterais une équipe, c'est ça ?
Mm-hmm.
Et tu laisserais les... Tu laisserais pour poser les bases et après, tu laisserais c'est les ça. Gens ouais. faire leur truc.
C'est ce que j'aimerais bien. Est-ce que je vais le faire un jour ? Je ne le sais pas, mais ça trotte dans ma tête quand même, hein, depuis un petit moment.
Ok. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé causer ?
C'est dur à dire, parce que c'est quoi l'objectif du podcast, tu vois ?
C'est de parler de ton histoire et de parler de ton histoire de succès.
Histoire de succès.
Est-ce que tu as la sensation d'avoir atteint le succès ?
Vraiment pas, non. Vraiment pas. Ben, en fait, c'est quoi ta métrique pour le succès, tu vois ? Est-ce que la métrique, c'est le nombre d'abonnés ? Est-ce que c'est ton bonheur au quotidien ? Est-ce que c'est ton compte en banque ? Est-ce que c'est... Donc, selon la métrique que tu prends, ben, tu vas dire que tu as du succès ou pas, tu vois.
C'est quoi ta métrique à toi ?
Ben, je suis pas sûre de l'avoir... Mais en fait, je suis pas intéressée par le succès.
Oui, mais tu vois, ça dépend ce que tu veux dire par le succès.
Disons que si on devait mesurer le succès, je l'associerais au nombre d'abonnés.
Okay.
Et donc, dans cette métrique-là, je considère pas que j'ai du succès.
T'as 450 000, c'est ça, 400 ?
480, je crois.
Okay.
Juste comme ça. Ça approche des 500, difficilement, parce que les gens s'abonnent plus maintenant. C'est plus trop,
c'est vrai.
Ouais, c'est plus trop à la mode. Puisque l'algorithme est devenu très bon sur YouTube, donc je pense qu'il n'y a plus besoin de s'abonner, parce que l'algorithme comprend ce que tu veux voir.
Tu passes plutôt par le système de recommandation, ouais, que par les recommandations.
Donc je pense que les abonnés, en fait, c'est voué à ne jamais tant augmenter que ça. Maintenant, les gens, les premiers qui étaient là et qui ont réussi dès le début, eux, ils ont des gros abonnés, puis ils vont rester gros. Mais je pense que c'est très difficile de grossir.
De percer aujourd'hui.
Ben, de percer, oui, en vue, mais pas en abonnés. Je pense qu'on peut très bien percer et avoir beaucoup de succès en nombre de vues, mais pas en nombre d'abonnés.
Mmh, je vois ce que tu veux dire. Mais donc toi, aujourd'hui, tu as la sensation que par rapport à ton nombre d'abonnés, tu n'y es pas encore, quoi ?
Non, je pense pas, non.
Ok. Tu voudrais quoi ?
Bah, je sais pas. Mais c'est ça le problème, c'est que dès que tu as un chiffre, tu te dis, bah, finalement, c'était facile d'y arriver. Bon, bah, c'est que c'est pas là le succès, tu vois, c'est qu'il est plus loin. Donc, on va continuer plus loin. T'sais, jamais je pensais arriver là quand j'ai commencé. Donc, c'est un succès par rapport à mon mois d'avant. Mais le succès de mon moi du futur, ben, j'espère qu'il sera plus haut, quoi.
Mais par exemple, tu vois, par rapport aux abonnés, tu pourrais te dire, bah, moi, j'aimerais bien arriver à 1 million d'abonnés. Et en fait, de dire dans chaque vidéo, bah, voilà, moi, je vais arriver à 1 million d'abonnés, abonnez-vous, tu vois.
Mm-hmm. Mais j'aimerais bien arriver à 1 million d'abonnés, mais je sais ce qui va se passer si un jour j'y arrive. C'est que je veux dire, bah, c'est pas assez, c'est pas un succès, regarde tous les autres. Tu vois, quand tu te compares, tu te fais peur, quoi. Quand tu te compares avec les survivants, du moins.
Avec les survivants.
Avec ceux qui ont réussi. Parce que tu vois pas tous ceux qui ont arrêté avant, évidemment.
Bien sûr.
Ou qui progressent plus, ou qui ont les mêmes problèmes que toi, etc. Donc tu te compares toujours à ceux qui sont le plus visibles. Donc c'est pas une bonne chose.
Et tu racontais que tu faisais tout, quasiment tout aujourd'hui, c'est ça ?
Il y a pas le montage.
Il y a quand même quelqu'un qui monte pour toi ?
Je fais pas le montage, je fais pas non plus la publication des vidéos, ni tout ce qui est réseaux sociaux. Ça, c'est ma sœur qui s'en occupe. Et le montage, c'est Marina qui s'en occupe. Donc ça, c'est les deux personnes que j'ai vraiment... bah, à la pige, hein, elles ne sont pas employées. Déjà parce qu'elles ne sont pas au Québec. J'ai une comptable, évidemment, et une agente. Et un relecteur aussi de mes scripts. Ça, c'est les personnes avec qui je travaille assez régulièrement. Mais j'aimerais bien arriver à produire plus de vidéos, ce qui implique des co-auteurs. Puis ça, j'arrive pas encore à trouver la formule pour avoir d'autres personnes qui travaillent avec moi. Donc,
Parce que tu veux dire que c'est dur d'ouvrir le champ, c'est ça? Que tu as besoin de garder la main sur ton texte? Ce qui est très entendable en plus. Hein.
Je sais pas où est mon problème. Disons que j'ai l'impression que ce qui est apprécié aujourd'hui dans mes vidéos, c'est le regard que j'en ai. C'est-à-dire que je prends un sujet et puis parce que c'est moi avec mes biais, avec ma formation, je vais l'approcher d'une certaine façon et je vais l'amener d'une certaine façon. Donc c'est ma patte d'autrice finalement. Mais si j'amène quelqu'un d'autre, forcément, ce sera une autre approche. Et forcément, ce sera une autre patte. Et donc là, j'ai un problème où il faut que je définisse, est-ce que Syllabus, c'est moi? Ou est-ce que Syllabus, c'est un ensemble de personnes avec plusieurs pattes d'auteurs et d'autrices? Et donc ça, c'est une décision qu'il faut prendre à un moment donné. Et je ne l'ai pas encore prise. Pour l'instant, c'est ma patte à moi, parce que je n'ai pas dissocié Syllabus de ma personne. Mais si un jour je dissocie Syllabus de ma personne, ben là, ça laissera la place à d'autres personnes.
Et tu voudrais aller chercher d'autres auteurs ou d'autres autrices qui écriraient sur le même sujet que toi? Ou par exemple, tu vois, tu peux te trouver aussi, je ne sais pas, un spin doctor qui reprendrait tes trucs et qui ajouterait des blagues, par exemple, tu vois, spécifiquement.
Mm-hmm. Ben, je voulais... c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais je pense que ce genre de personnes qui viennent ajouter des blagues, c'est mieux quand c'est co-écrit en même temps, plutôt que venir ajouter après. Je pense que c'est artificiel quand t'ajoutes après.
Okay.
Donc ça veut dire que c'est une écriture plus à quatre mains, je pense. En tout cas, moi je sais que quand je repasse dans mes scripts pour ajouter des blagues, c'est toujours artificiel, tandis que quand elles viennent au moment où j'écris, là c'est naturel. Donc je pense qu'il y a une méthode de travail à aller chercher ici. Mais pareil, bah, c'est ça, écrire à quatre mains, c'est encore un autre apprentissage que j'ai pas. En tout cas, pas encore.
Dites donc, que de projets, hein. Après 9 ans, c'est cool.
Bah oui.
Merci beaucoup, Viviane.
Merci à toi.
C'était trop top. C'était cool de faire ta connaissance. À plus.
À plus.
Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.